Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter la lecture de la Bible. Tout d'abord, dans l'évangile de Matthieu, ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le récit des rameaux. Matthieu 21, versets 1 à 11. Quand les disciples et Jésus approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant d'eux des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. » « Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète, dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu dans les cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ? » demandait-on. « C'est le prophète !» Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Puis dans l'évangile de Luc, un extrait de ce passage concernant le chemin d'Emmaüs, c'est au chapitre 24, les versets 13 à 20. C'est après Vendredi Saint et le dimanche de Pâques. Ce même jour, jour de Pâques, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Par ses paroles et par ses actes devant Dieu et devant tout le peuple, les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 300, la première, la troisième et la quatrième strophe de ce cantique numéro 300.
Thank you.
Ô Éternel, nous aspirons à la sérénité. Nous avons besoin de quitter nos soucis, d'être libérés de nos tensions, de recevoir la paix que tu apportes à nos vies. Éternel, nous venons nous reposer en toi et en ta parole sainte, crédible, fidèle, et ta parole apaisera notre soif de paix et d'amour. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais consacrer la prédication de ce dimanche à Jésus prophète. En effet, nous avons entendu que ce récit de l'entrée de Jésus dans Jérusalem est conclu, c'est au livre de Matthieu, chapitre 21, verset 11, par des mots qui traduisent la réponse que les gens font aux habitants de Jérusalem qui s'interrogent. Il y a toute une agitation, tout un trouble dans la capitale et ils se demandent que se passe-t-il, qui est celui qui suscite cela? Et on répond, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et puis, après Vendredi Saint et Pâques, dans ce récit des disciples d'Emmaüs, c'est au chapitre 24 de l'évangile de Luc, les disciples répondent au mystérieux compagnon qu'il a avec eux, ils n'ont pas reconnu Jésus, qui les interroge, et eux répondent, c'est Jésus de Nazareth, c'était un prophète, puissant en parole et en acte. Jésus a été salué comme prophète et n'a jamais récusé ce titre quand il lui était attribué. Au contraire, il se reconnaît lui-même et se dit prophète. Par exemple, dans cette complainte sur Jérusalem, c'est d'après l'évangile de Matthieu et de Luc, Jésus déclare « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. » Dans les quatre évangiles, il y a ce récit fameux du retour de Jésus dans sa patrie, Nazareth. Il entre dans la synagogue, lit les Écritures, commente ces Écritures, mais sa prédication fait scandale. On l'accuse de blasphème et on cherche à le tuer. On cherche à le lapider, dit le texte, bien sûr. Il réussit à s'échapper. Et il déclare alors, c'est devenu une sentence très connue, « Nul n'est prophète dans sa patrie. » Et puis, un autre récit, lui aussi rapporté dans l'évangile de Luc, Jésus décide de quitter la Galilée, de monter à Jérusalem, Mais les disciples cherchent à l'en dissuader en lui disant qu'il risque sa vie à Jérusalem et lui répond « Il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » Jésus, prophète. Certains pensent qu'il s'agit là d'un titre marginal, peu important. J'ai même trouvé sous la plume d'un exégète, d'un commentateur de la Bible, ces mots où l'on dit qu'il est occasionnellement ce titre attribué à Jésus et qu'il se reconnaît lui-même incidemment comme prophète. Donc un titre tout à fait anecdotique pour ces commentateurs secondaires par rapport à d'autres titres bien plus prestigieux comme Seigneur ou Fils de Dieu. Or, il me semble que le titre de prophète attribué à Jésus et qu'il se reconnaît est absolument essentiel et décisif. Certes, nous dirons certains, ce titre est quand même assez limité. Il est inscrit dans l'histoire d'Israël. C'est un titre très particulier. Je pense exactement l'inverse, même si cela est vrai. Ce titre est universel. Il a une dimension interreligieuse. Dans le Coran, Jésus est salué comme prophète. Bien des Juifs qui ne reconnaissent pas, on le sait bien, Jésus comme Messie, c'est-à-dire comme Christ, sont prêts à reconnaître en lui un prophète, et même des gens de la rue, des incroyants, sont prêts à reconnaître en Jésus, eux aussi, un prophète et même un très grand prophète. Donc ce mot prophète a une dimension universelle qui dépasse les frontières des églises, car ce n'est que dans les églises, ça c'est un cadre particulier et limité, que l'on salue prophète comme Jésus, Fils de Dieu ou Seigneur. Donc le titre de prophète a une valeur et un retentissement qui dépasse nos églises. Alors qu'est-ce qu'un prophète? L'essentiel n'est pas, comme on le dit parfois, le prophète est un homme qui délivre des oracles, qui dit l'avenir, un devin un peu comme la Pythie de Delphes, même s'il est arrivé que les prophètes annonce des catastrophes à venir, et on parle des prophètes de malheur, le prophète n'est pas d'abord cela. Le prophète, c'est celui qui dit la parole de Dieu, celui qui la transmet. Et la meilleure définition du prophète serait d'affirmer « il est un porte-parole de Dieu ». Il parle de la part de Dieu. Le nabi, c'est le mot hébraïque pour désigner le prophète, est à la fois celui qui est appelé, qui reçoit une vocation dont souvent il se sent indigne, et celui qui appelle, qui proclame, qui annonce une parole de Dieu. Calvin, le réformateur, dit de manière assez belle, à cet égard, que Jésus est messager et ambassadeur souverain de Dieu. D'où dans le Premier Testament, ces mots qui introduisent très souvent le message des prophètes, « Ko amar Adonai, ainsi parle l'Éternel ». Et je me rappelle, dans des études bibliques qui avaient lieu dans le cadre du foyer de l'âme, mais aussi dans un cadre de l'amitié judéo-chrétienne, je me rappelle ce rabbin qui, de manière peut-être un peu triviale, mais combien suggestive, disait « qu'est-ce qu'un prophète ? » Eh bien, le prophète, c'est un entonnoir. En lui rentre la parole de Dieu, elle doit être transmise telle qu'elle. Jésus, prophète, cela nous pose donc une question. est-ce qu'en Jésus j'entends une parole de Dieu? Ou est-il simplement pour moi un grand mort, un grand sage qui a délivré son enseignement très personnel et de manière remarquable? Alors, dans la deuxième étape de cette prédication, j'aimerais essayer de dire quel est le message des prophètes et par conséquent, quel est le message de Jésus. Malgré leur immense diversité, diversité d'implantation et de lieux, diversité de siècles, le message des prophètes tel qu'il nous est transmis dans la Bible s'étend sur plus de 1000 ans. Diversité de styles, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, ce n'est pas le même style. Et puis il y a des prophètes dont nous n'avons pas les livres dans la Bible, mais dont nous parle la Bible. Élie, Élisée, Nathan, le prophète du temps de David. Eh bien, malgré cette immense diversité, on dit qu'il est possible de rassembler le message des prophètes dans un triptyque. Cela est suggéré par le père Devaux, qui était directeur de l'école biblique de Jérusalem et qui a été un des principaux responsables de la traduction très belle de la Bible de Jérusalem. Le père Devaux disait: le message des prophètes peut être reconnu dans un triptyque, à savoir monothéisme, messianisme, moralisme. Le monothéisme, bien sûr, tous les prophètes ont lutté contre le culte des idoles. On pourrait dire qu'ils s'inscrivent dans la perspective de ce que le Décalogue affirme quand il déclare: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Libre à nous de nous interroger sur les idoles de notre vie ou d'aujourd'hui. Monothéisme et messianisme. Nous sommes là situés dans la catégorie de l'eschatologie, de la fin des temps, d'une histoire orientée vers une fin ultime, et cet espoir a survécu dans le peuple d'Israël, quelles que soient les catastrophes. Mais cette annonce messianique n'est pas que l'annonce d'un Messie, elle est aussi et même plus souvent l'annonce d'une ère messianique, à savoir un règne de paix et de justice. Et puis après le monothéisme, le messianisme, il y a le moralisme, à ne pas entendre dans le sens moralisateur, bien sûr, mais à savoir que la vraie religion est une religion intérieure, celle de la foi, et extérieure, celle de nos actes, et qu'elle ne se traduit pas essentiellement et véritablement par les manifestations extérieures du culte, des rites, des sacrifices par exemple. L'essentiel, c'est l'éthique, à savoir une éthique personnelle, familiale, sociale et politique. Ainsi, je vais vous relire un extrait du livre d'Amos, le prophète Amos, c'est au chapitre 5. Voici l'oracle. Je déteste vos pèlerinages, je ne peux plus les voir, dit l'Éternel. Je ne peux plus sentir vos cérémonies religieuses, ni les sacrifices que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus les entendre, ni le son de vos harpes, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Eh bien, on peut inscrire la prédication, l'enseignement de Jésus à l'intérieur de ce triptyque. Jésus a repris ces trois dimensions essentielles. Le monothéisme, c'est la foi en Dieu, en un Dieu Père qui nous appelle à être frères et sœurs, un Dieu d'amour. Nous croyons en Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu. Je ne crois pas à ce Dieu cruel, à ce Dieu sanguinaire, à ce Dieu vengeur, à ce Dieu potentat et tyrannique que nous présentent bien des textes, même bibliques. Je crois au Dieu de Jésus, c'est-à-dire celui dont la première épître de Jean affirme à deux reprises, Dieu est amour. Messianisme, c'est l'annonce par Jésus de la venue imminente du royaume de Dieu. Et Paul va reprendre ce message et les premières générations chrétiennes ont attendu cette venue imminente du royaume de Dieu et du retour du Christ. Mais manifestement, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, Jésus s'est trompé et Paul avec lui, comme tous les autres. Mais voyez-vous, Albert Schweitzer, le fameux docteur Schweitzer, qui est un grand philosophe et un grand théologien, Albert Schweitzer, qui est le premier à avoir souligné, juste après Johannes Weiss, moins connu, que le royaume de Dieu, c'était le cœur, l'essentiel de la prédication et de l'enseignement de Jésus. On ne l'avait pas reconnu avant cela. Albert Schweitzer affirme « Cette erreur de Jésus a eu des conséquences très positives. Dans la mesure où nous sommes obligés de reconnaître que le royaume de Dieu est au cœur de l'enseignement et de la prédication de Jésus, alors nous devons, nous, lutter pour l'établissement de ce royaume de Dieu. Hic et nunc, ici et maintenant, et pas reporter cela au-delà. Et Albert Schweitzer écrit, le centre de gravité de la foi chrétienne n'est pas le drame rédempteur de notre dogmatique, mais la venue du royaume de Dieu dans notre cœur et dans le monde. Et nous savons bien que le combat pour le royaume de Dieu, on le voit plus particulièrement avec Wilfred Monod, le pasteur Wilfred Monod, le père de Théodore Monod, l'homme du désert, eh bien, le thème du royaume de Dieu est le motif et le combat central de tout un christianisme social. Jésus déclare que notre attente ne doit par conséquent pas être une attente stérile, passive. C'est là que on va reconnaître l'importance du moralisme. Pas d'attente stérile. Vous savez que j'aime à dire joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Le culte véritable commence à la sortie du culte. Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Alors, moralisme, Jésus affirme, d'après l'évangile de Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour, dit Jésus, et non pas à des doctrines, à des dogmes, à des credos, à des confessions de foi, ni même à des églises. Oui, le cœur de la vie chrétienne, c'est l'agapé, l'amour du prochain. C'est là l'essentiel. Mais quand j'affirme cela, on me répond souvent, alors vous retombez dans cette idée d'un salut par les œuvres qu'a combattu la réforme unanime en disant l'essentiel, ce sont l'amour du prochain et l'agapé. Non. Parce que, et c'est un des paradoxes qu'on a de la peine à saisir même dans le protestantisme, Si c'est bien là l'essentiel, cet essentiel ne nous sauve pas. L'apôtre Paul va reprendre cette importance de la charité. Nous connaissons tous 1 Corinthiens 13, l'hymne à la charité, qui est conclu par ces mots. Maintenant, ces 3 réalités demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, précise Paul, c'est l'amour. Eh bien, voyez-vous, quand il dit la foi, l'espérance et l'amour, il s'inscrit toujours lui aussi dans ce triptyque. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est le monothéisme. L'espérance, c'est le messianisme. Et l'amour, c'est le moralisme. Alors, dans la dernière étape de cette prédication, j'aimerais faire 2 remarques de conclusion. D'abord, pour dire que quand on prononce le mot « incarnation », quand on parle de l'incarnation de Dieu, on pense tout de suite à Jésus. L'incarnation de Dieu en Jésus. Et on se rappelle ces mots du prologue de l'évangile de Jean, « La parole a été faite chair ». Or, cette parole de Dieu incarné précède Jésus. Tous les prophètes ont exprimé cette parole de Dieu qui était en eux. L'histoire des prophètes, c'est déjà avant Jésus, celle de l'incarnation, dont Jésus est pour nous le représentant par excellence et peut-être un sommet. Mais, et c'est ma deuxième remarque de conclusion, cette incarnation se prolonge à travers nous aujourd'hui. Le catéchisme de Calvin, qu'on appelle le catéchisme de Genève, en 1545, et le catéchisme de Heidelberg, en 1563, catéchisme allemand, mais réformé et non pas luthérien, affirment l'un et l'autre l'importance de ce qu'on appelle, dans une théologie classique, le triple office de Jésus-Christ, à savoir que Jésus a été, de manière symbolique bien sûr, prêtre, prophète et roi. Mais ces 2 catéchismes insistent en même temps pour dire que nous devons faire nôtre ce triple office, que par conséquent nous aussi sommes prophètes. Calvin dit « nous sommes participants de ce triple office. Nous sommes les compagnons de cette réalité. » Le catéchisme de Heidelberg, « membre du Christ », dit-il, « voilà ce que nous sommes quand nous sommes, nous aussi, prophètes. » Vous voyez bien qu'il n'y a pas là une vision négative de cet homme, comme on l'a trop souvent dit dans la tradition réformée, incapable de faire le bien. Dans l'évangile, d'après l'évangile de Jean, Jésus déclare « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais » et il ajoute « Il en fera même de plus grandes. » Nous sommes donc capables de faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Si ce n'était pas lui, d'après l'évangile de Jean, qui déclare cela, quiconque affirmerait une telle parole serait jugé comme blasphémateur et hérétique. Voyez-vous, cette présence de Dieu, en nous, qu'on l'exprime à travers la parole d'un Dieu d'amour, à travers l'Esprit de Dieu en nous, un esprit dynamique, qu'on l'exprime par conséquent à travers ce dynamisme créateur de Dieu qui nous habite, tout cela nous dit quoi? La force et la dignité qui sont la nôtre. Nous sommes tous contre la fausse humilité. mais soyons aussi contre une humilité fausse. Et pour conclure, j'aimerais vous laisser cette affirmation de Nicolas Berdiaev. Vous ne serez pas étonnés qu'une fois de plus, je cite ici Nicolas Berdiaev, mon penseur préféré. C'est un orthodoxe, ni catholique, ni protestant, mais tout à fait libéral. Dans un livre qui a été réédité récemment et qui a un titre magnifique, « Pour un christianisme de création et de liberté », Berdiaev écrit ceci, « En aucune façon, Dieu n'a besoin d'esclaves soumis et obéissant, éternellement pantelant. Non, Dieu a besoin de fils libres et créatifs, aimants et audacieux, de fils et de filles libres, aimants et audacieux. » Et vous savez que Berdiaev disait que Dieu non seulement serait réjoui par nos actions créatrices, mais qu'il pouvait même en être étonné. Amen.